insupportable. Du point de vue de la thérapie, ce qui m'intéresse essentiellement, ce sont vos relations avec votre père. Nous savons tous qui il était. Nous connaissons ses états de service, et nous savons qu'il a été un personnage important lors de votre enfance. C'est un aspect que je souhaite tout particulièrement aborder avec vous.
Vous voulez que je parle de mon père?
Oui.
Et si je préfère parler de ma mère?
Alors le moment viendra de le faire. Pour l'instant, je vous réponds poliment que j'entends ce que vous me dites, mais je vous demande de parler de votre père.
Sérieusement?
Sérieusement.
Vous ne voulez pas que je vous parle de mon père?
Si, Franck. Je veux savoir tout ce dont vous vous souvenez de lui.
Et vous croyez que ça va m'aider?
Oui.
Eh bien moi, je peux vous dire que ça ne m'aidera pas.
Naturellement, je ne peux pas vous forcer à parler de lui, mais je dois insister sur le fait que cet aspect demeurera ma priorité. Et je vous répondrai poliment que j'entends ce que vous me dites, mais je vous dirai d'aller vous faire foutre.
Ok. Commençons par autre chose.
Dites-moi pourquoi vous êtes entré dans la police.
Pour découvrir toutes les choses que mon père ne m'avait jamais dites.
Continuez.
Ok, docteur Griffin. Marie, ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Marie?
Vous voulez vraiment que je vous parle de lui? Oui.
Eh bien, mon père était un empêcheur de tourner en rond. Il faisait partie du BCCO.
BCCO?
Bureau de contrôle du crime organisé. Il y était quand le cigare s'est fait descendre en 1979.
Le cigare?
Un surnom. C'était comme ça qu'ils appelaient Carmine Galante, parce qu'il avait toujours un cigare à la bouche. Même quand il s'est fait descendre, il avait un putain de cigare à la bouche.
C'est votre père qui vous a raconté ça?
Ouais, il me racontait toutes sortes de choses.
Concernant sa lutte contre le crime organisé?
Ouais.
Vous voulez m'en parler? Parlez-moi du cigare.
Qu'est-ce qu'il y a à dire?
Tout ce que vous voulez. Je vais vous raconter quelque chose sur le célèbre John Parrish.
Qu'est-ce que vous dites de ça? Si on allait directement au cœur des choses, puisque vous y tenez tant.
D'accord.
Mon père était une ordure. Une ordure absolue.
Avec vous?
Avec à peu près tout le monde.
Il est mort, n'est-ce pas?
Quand est-il mort? Il y a 16 ans, fin septembre 1992.
Et votre mère?
Elle est morte en janvier 1993.
Comment était leur mariage?
Il la traitait comme une princesse. Il la vénérait.
Vous avez des frères et sœurs?
Non. Alors, est-ce qu'il voulait que vous deveniez policier?
Tout ce qu'il voulait, c'était que je la boucle et que je lui foute la paix. Vous pensez qu'il ne vous aimait pas?
Il m'aimait comme tous les pères d'origine irlandaise aiment leurs gamins. Quand je faisais quelque chose de bien, il ne bronchait pas. Quand je faisais le con, il m'en collait une bonne.
Et s'il était encore en vie? S'il était ici avec nous, qu'est-ce que vous lui diriez?
Je lui dirais d'aller se faire foutre.
Malgré toutes ces décorations,
vous vous êtes renseigné sur lui?
Brièvement. Alors pourquoi me donnez-vous l'impression de ne pas savoir de qui je parle? J'ai besoin que ce soit vous qui parliez, Franck. C'est à ça que servent ces séances.
Ah ouais.
Si vous voulez jouer carte sur table, faites-le vraiment. Ne vous foutez pas de ma gueule. Dites, hé Franck, votre père était un cador, pas vrai? Il a reçu Dieu sait combien de citations. Et quand il s'est fait buter dans la rue, le maire de New York était bien décidé à lui remettre la médaille d'honneur du Congrès.
Dites-moi ça.
Dites-moi ce que vous savez, et alors je pourrai combler les blancs. Si nous devons aborder des sujets intimes, Dr. Griffin, Marie, alors nous ferions aussi bien d'être sur la même putain de longueur d'onde.
Naturellement. Bien. Alors, reprenons depuis le début.
Votre père était un flic décoré. Il faisait partie du bureau de contrôle du crime organisé et de l'équipe spéciale de l'État de New York contre le crime organisé. J'ai cru comprendre qu'il a joué un rôle clé lors de certaines enquêtes capitales sur la corruption, que ce soit dans les milieux de l'industrie du bâtiment, du transport des déchets, à JFK, et dans le commerce du poisson et de l'habillement. On dirait une rubrique nécrologique trouvée sur Google.
C'est le cas.
Eh ben, ce que vous avez eu ne couvre pas toute la vérité. C'était un bon flic, du moins pour l'essentiel. Et oui, il a fait toutes ces choses qu'on raconte. Il a aussi fait beaucoup de choses qu'on ne raconte pas. Et peut-être qu'on ne les racontera jamais.
Et ces choses lui ont coûté la vie. Et vous pensez que les gens ont besoin de connaître ces choses? Mon Dieu, non! Qu'ils croient ce qu'ils veulent croire. Les gens doivent avoir foi en quelque chose. On ne peut pas tout leur reprendre, sinon on serait dans la merde jusqu'au cou. Voulez-vous me parler de certaines de ces choses? Pourquoi? Vous voulez entendre des récits de guerre du bon vieux temps? Vous voulez entendre comment mon père et ses copains ont débarrassé New York de la mafia dans les années 1980? Ou vous voulez entendre la vérité? La vérité? Naturellement la vérité. Ce que vous avez lu, ce n'est même pas la partie visible de l'iceberg, tout juste une poignée de flocons de neige. Il n'était pas simplement ce qu'on dit. Mon père? Bon Dieu, non, il était tout sauf ça. Vous voulez en parler? Pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dois aller voir le coroner et obtenir l'identité d'une fille que j'ai retrouvée morte, et après, je dois découvrir ce que Danny Lange foutait dans une allée avec une balle dans la gorge. Eh bien, je suis content que vous soyez venu aujourd'hui, Franck. Hé, docteur, si je laissais tomber avec les filles après le premier rendez-vous, je ne tirerais jamais mon coup. Chapitre 7. Rebecca Lange est le nom que nous avons, déclara Stanley Dugan, le coroner adjoint. La police scientifique a retrouvé son sac à main dans une autre pièce, avec la carte d'une boutique de location de vidéos à l'intérieur. Nous sommes remontés jusqu'au système des services pour l'enfance. La photo qu'ils avaient a confirmé son identité. D'après mes observations, elle a été tuée entre 8 h et 12 h avant que vous ne la découvriez. Pas de zone de lividité secondaire, je pense donc qu'elle est morte dans cet appartement, sur le lit. Ils se tenaient de chaque côté de la table d'acier. Frank Parrish respirait lentement et silencieusement, bouleversé par la mort de la fille, par la futilité de cette vie gâchée. Il y avait en elle quelque chose d'absolument désespéré. Ses ongles rouges, ses cheveux, le fait qu'elle semblait parfaite et inaltérée, hormis les contusions sur son cou. Juste ça. 16 ans, poursuivit Dugan. Née le 6 mars 1992, cause du décès, strangulation. De grandes chances pour que l'assassin ait été droitier, comme je l'ai déjà dit. Et il avait de grandes mains. Il n'y avait rien sous ses ongles, aucun poil étranger dans la région du pubis. Trace de viol? Demanda Parrish. Elle n'a pas été violée, mais elle a eu un rapport sexuel récent. J'ai trouvé du lubrifiant, du spermicide, pas de sperme. Difficile de dire exactement quand, mais les contusions sont minimales et il n'y a pas d'abrasion interne. Drogue? Un peu d'alcool, pas beaucoup. Dugan attrapa sur une étagère derrière lui un bocal 1,5 litre, au fond duquel tournoyait environ 10 cm d'un liquide brunâtre et visqueux. Ça, plus quelques frites, un hamburger et des cornichons. Parrish baissa les yeux vers la jeune fille. Il se l'imaginait vivante avec ses yeux lumineux, ses joues pleines de couleurs, le vent dans les cheveux. Salut, Franck.
Salut, Rebecca.
Franck, je ne voulais pas te le dire, mais tu n'as pas trop bonne mine.
Ça va, ma puce. Regarde-toi, tu peux parler.
Je n'ai pas besoin d'avoir bonne mine, Franck. Je suis morte.
Tu veux me raconter?
Merde, tu commences à parler comme le docteur Marie.
Tu es une fille marrante.
J'étais, Franck. J'étais.
Alors,
on va parler de ce qui t'est arrivé? Je ne peux pas t'aider, Franck. C'est la règle. Les morts ne parlent pas aux vivants. Du moins, pas pour leur divulguer des secrets.
Inspecteur Parrish!
Parrish revint soudain à la réalité.
Vous avez encore besoin de moi? J'ai une demi-douzaine de cadavres qui attendent.
Parrish sourit. Il tendit le bras et toucha la main de Rebecca. Ongles rouges. Plus rouges que le sang. Non, répondit-il. C'est bon.
Bien, je vais la remballer et la mettre au frais. Vous avez environ une semaine, et s'il ne se passe rien, nous l'enverrons au dépôt mortuaire de l'État. Pour autant que je sache, il n'y a pas de parents, pas de famille.
À part le frère, et lui aussi est mort, dit Parrish. Et il repensa alors à la femme sur la photo. Probablement la mère. Où était-elle pendant que sa fille gisait morte?
Le frère s'est fait descendre hier, une balle dans la gorge qui est allée se loger dans le crâne.
Dugan acquiesça.
Oui, je vois de qui vous parlez. Il y a un lien?
Difficile de ne pas voir la coïncidence, mais pour le moment, rien ne relie ni les scènes de crime, ni les crimes eux-mêmes. Il est mort à environ 15 h, et elle, entre 8 h du matin et midi le même jour. Vous connaissez le proverbe, lança Degan. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, et parfois les choses sont exactement ce qu'elles semblent.
Eh bien, nous allons procéder à un examen toxicologique et si